le 7-9 de France Inter. Première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h, est professeur de sciences politiques, ancien directeur de Sciences Po Lille, auteur du rapport remis hier au ministre de l'Éducation nationale sur la réforme du bac, Pierre Mathiot. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Avant d'entrer dans le détail de vos propositions, un mot sur le constat à l'origine de la réforme. Qu'est-ce qui dysfonctionnait dans le bac qu'il était urgent de réparer ou de transformer?
Alors, pas urgent puisque c'est pour 2021, mais il y a plusieurs éléments. Je pense que l'élément central quand même, c'est ce constat que le baccalauréat, dans sa formule actuelle, n'est pas assez, voire pas du tout relié à l'enseignement supérieur, puisque, comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, dans le système actuel, 0% du baccalauréat est porté à connaissance de l'enseignement supérieur, puisque la seule condition, c'est d'avoir le baccalauréat pour accéder à telle ou telle filière, mais 90% au moins des lycéens connaissent leur affectation dans l'enseignement supérieur avant même que les épreuves du baccalauréat commencent. Donc il y a une totale déconnexion et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a d'autres éléments, notamment son coût, son coût, c'est pas le problème en fait, mais c'est plutôt sa lourdeur de plus en plus monstrueuse. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le rapport, et donc les risques que cette lourdeur fait peser, par exemple sur un bug organisationnel, mais aussi la charge mentale qu'elle fait peser sur l'ensemble des acteurs du système, les profs, les proviseurs, les élèves. Et j'ajouterai enfin aussi que le bac continue à être quelque chose qui se passe tout à la fin. Moi, quand je l'ai passé, il y avait beaucoup moins d'épreuves. Aujourd'hui, les élèves passent entre 10 et 16 épreuves au mois de juin, donc ils bachotent beaucoup. Je suis pas sûr que pédagogiquement, ce soit intéressant. Donc, ça a du sens aussi de prendre en compte, disons, du travail qu'ils vont mener pendant les deux années de première et de terminale.
Est-ce que l'effet de seuil symbolique, j'ai le bac, je suis un grand, un autre moment de ma vie démarre, est-ce que cet effet de seuil était largement émoussé, d'après vous, et que, de ce fait, on pouvait tourner la page ou commencer à la tourner de cette institution bicentenaire de la République?
Je pense que la clé, hein, c'est de constater que désormais à peu près 95% des élèves qui réussissent le bac général et technologique, il y en a un peu plus de 9 sur 10 qui le réussissent, et parmi eux, 95% vont dans l'enseignement supérieur. Donc en termes de masse, c'est devenu énorme par rapport à l'époque où moi-même, Bernard Guetta, vous-même, avons eu notre bac. Hein. Donc il y a un effet de masse extrêmement important, et donc ce constat qu'il fallait vraiment faire en sorte que ce qui se passe au lycée, et notamment ce qui se passe dans le cadre du baccalauréat, positionne beaucoup mieux qu'aujourd'hui les élèves par rapport à l'enseignement supérieur, parce que c'est aussi un des facteurs, disons, d'échec ou de non-réussite de l'enseignement supérieur d'une partie non négligeable des élèves. Il y a des chiffres qui d'ailleurs sont discutés, mais globalement l'arrivée dans l'enseignement supérieur, notamment en licence, est une arrivée assez délicate.
Mais renvoyer la vache sacrée républicaine dans les livres d'histoire?
Ah bah non,
le moment vous semble...
Non, je pense pas du tout qu'on renvoie... On ne supprime évidemment pas le bac, et dans les propositions que je fais, au contraire, je pense qu'en resserrant le nombre d'épreuves terminales du bac, en proposant par exemple ce grand oral, que même certains avaient appelé grand oral républicain, vous voyez, donc on est plutôt dans une forme de relance, une forme de ritualisation du bac, de rite de passage entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur.
Moins d'épreuves, plus de contrôle continu, la disparition des filières au profit de majeurs et de mineurs. Un grand oral, là encore, j'aimerais comprendre la logique qui vous a conduit à cette nouvelle maquette, comme on dit parfois à l'école.
Alors, la logique, c'est de partir du bac, parce que là encore, constatons qu'en France, c'est le bac, c'est donc le point d'arrivée qui détermine toute la montagne, tout l'amont. Hein. Donc, les épreuves du bac déterminent la manière dont les enseignants enseignent, puisqu'ils sont là pour faire en sorte que leurs élèves aient le bac. Donc, l'idée, c'est qu'on part de ce constat que j'ai dit avant de s'agissant du bac, et puis on réorganise la manière d'obtenir le bac. Pour le dire vite, effectivement, ce qu'on appelle contrôle continu, peut-être un peu vite, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure, on resserre les épreuves terminales, et ce faisant, on remonte le cas échéant sur l'organisation du lycée. Donc vous parliez de ma proposition autour du grand oral, bien entendu, si cette proposition était retenue, c'est l'idée de l'oralité, hein. Il est important que les élèves aujourd'hui, par rapport à leurs études supérieures, mais aussi plus largement en tant que futurs citoyens, aient une formation à la prise de parole et à une forme d'éloquence, mais ça se prépare, ça se travaille, donc ça veut dire qu'évidemment, si la proposition est retenue, les enseignants seront amenés à préparer ces élèves à cet oral. Donc ça aura aussi des effets sur la pédagogie depuis la classe de seconde. Vous voyez, donc c'est en cela que le lycée peut être impacté par la réforme, mais en partant de ce point d'arrivée qui est le bac.
Et quel pourrait être le contenu de cet oral, de cette épreuve orale ?
Alors, dans le rapport, je développe assez longuement pour bien expliquer de quoi il s'agit, pour essayer aussi de rassurer, parce que bon, nous sommes en France, donc toute proposition un peu disruptive produit évidemment beaucoup d'inquiétudes qui peuvent être plus ou moins légitimes. Le point de départ, c'est de considérer, comme j'ai dit juste avant, qu'il est important que tous les élèves puissent avoir un exercice ambitieux autour de l'oral. Ce qui existe, il faut quand même le dire, pour le bac technologique aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un oral sur projet. Donc tout est prévu depuis la première, travailler sur un projet, sur un sujet à étudier, éventuellement y travailler collectivement, un sujet qui peut être individuel, qui peut être préparé individuellement ou collectivement, disciplinaire ou pluridisciplinaire, et puis l'élève le présente devant un jury à la fin de la terminale, à la toute fin de la terminale, un jury dans lequel il y a une personne qui n'est pas un professeur de lycée, donc qui peut être éventuellement un journaliste de France Inter.
Quelle sera la forme du contrôle continu ? Je vous ai senti un tout petit peu mal à l'aise avec l'expression même, contrôle continu, Pierre Mathiot, les élèves feront quoi et comment seront-ils évalués ?
Alors là, il y a effectivement, dans le rapport, je fais trois propositions différentes parce que moi-même, je suis un peu hésitant sur la meilleure formule, en gros. Donc, en fait, si vous voulez, il y a trois manières de prendre en compte le contrôle continu. Déjà, je propose que ce soit 40% du total du bac. Hein, c'est important symboliquement. Il y a trois manières. Il y a soit on fait des épreuves ponctuelles, ce qu'on appellerait dans l'enseignement supérieur des partiels, nationaux, anonymes, qui respectent des critères de standardisation, comme on dit. On fait que ça. Soit, à l'autre bout, on prend en compte les bulletins. Que les bulletins. Là, ça pose d'autres problèmes, évidemment, sur lesquels je passe ici. Et puis, au milieu, on fait un peu les deux. On fait un peu de partiel ou d'épreuves ponctuelles et on prend un petit peu en compte les bulletins. Ça, c'est dans la main du ministre, parce que moi-même, j'étais un petit peu gêné.
Vous avez une préférence sur les trois ?
Je pense que le plus facile serait de prendre en compte les bulletins, mais ça pose énormément de problèmes par rapport au caractère national du baccalauréat. Moi, comme ça, ce matin, mal réveillé, je dirais que c'est plutôt la solution médiane qui a ma préférence, un peu des deux.
Parce qu'elle permet de ne pas trancher ?
Parce qu'elle permet, de donner des gages à des acteurs qui ont des positions un peu différentes. Oui, il faut le reconnaître.
L'inquiétude, même si on voit bien qu'il y a une position médiane qui permet partiellement de la lever, l'inquiétude existe tout de même sur le fait que cette réforme entérine une bonne fois pour toutes l'existence d'une école ou d'un lycée à plusieurs vitesses. Et ça, le contrôle continu, les jeux d'options, les qualités intrinsèques des élèves feront qu'il y aura autant de bacs quasiment qu'il y a d'établissements scolaires et de hiérarchie entre ceux-ci.
Alors, pourquoi ? Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est pas le cas.
Justement, alors, vous savez, quand on fait une réforme, est-ce que on dit, on assume cet état de fait, il y a aujourd'hui des établissements de différents niveaux et de différentes qualités, ou est-ce qu'on essaye, à travers une réforme, de corriger ce qui peut l'être ?
Alors, deux réponses rapides. D'abord, aujourd'hui, plus de 50% des élèves, bac général et technologique, plus de 50% sont recrutés dans l'enseignement supérieur dans des filières sélectives sur leur bulletin, sur leur nom, donc c'est absolument pas anonyme. Et pour beaucoup de personnes, de familles, etc., ça ne pose aucun problème. Donc, premier constat. Deuxième constat, vous avez raison, ça s'appelle éducation nationale. Donc dans le rapport, je fais des propositions dont l'objectif est de préserver, voire de renforcer ce qu'on va appeler l'équité territoriale, notamment en proposant que certaines options qui aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, comme par hasard d'ailleurs et assez bizarrement, sont proposées dans des lycées de centre-ville, soient proposées ailleurs que dans des lycées de centre-ville. Vous savez que dans une histoire précédente, j'ai travaillé pour une autre ministre sur des questions d'excellence au collège, liées à ce que j'ai fait quand j'étais directeur de Sciences Po Lille, et je propose encore pour le lycée, d'avoir une stratégie de diffusion, disons, des options, par exemple, qui sont des options socialement situées, comme on dit en sociologie, de diffuser et plutôt d'aller les installer dans des lycées isolés sur le plan géographique ou dans des lycées de banlieue et de les mettre peut-être moins systématiquement dans les lycées de centre-ville.
Quel serait le taux de réussite estimé à ce nouveau bac ? On se souvient des slogans 80%. Est-ce que là, c'est 100% d'élèves de terminale qui l'auront ?
Là, vous faites une confusion. 80%, c'est 80% d'une classe d'âge au bac. Oui, ça ne renvoie pas au taux de réussite.
Est-ce que là, on va vers le bac pour tous ?
Alors, l'objectif, le bac pour tous, non. Puisque déjà, il y a 25% des garçons en France qui n'ont pas le bac, quoi qu'il arrive. Donc, la question n'est pas
Pour tous ceux qui le passent.
Pour tous ceux qui le passent, on est déjà 91 ou 92% de réussite au bac général et technologique. Donc la question n'est pas du tout de diminuer le nombre de jeunes qui auront le bac dans une génération, c'est pas du tout ça l'enjeu, c'est plutôt de faire en sorte qu'on ait le bac dans des conditions plus réalistes. Je veux dire par là qu'avec le jeu des options, des points au-dessus de 10, etc., etc., d'abord il y a des élèves maintenant qui ont le bac avec plus de 20 sur 20 de moyenne, ce qui est assez extraordinaire.
C'est baroque,
et puis on a aujourd'hui, vous le savez sans doute, 52% des élèves qui ont le bac avec mention. Alors je ne dis pas que c'est un peu bizarre, mais ce que je dis moi, c'est pas qu'il y ait moins de bacheliers, mais qu'il y ait mieux de bacheliers. C'est qu'au fond, le résultat qu'on obtient au bac, la moyenne qu'on obtient au bac, correspond de façon peut-être un peu plus exacte à son niveau réel. Voilà.
Comment jugez-vous, Pierre Mathieu, l'acceptabilité de cette réforme? Pour qu'une réforme se passe dans de bonnes conditions, il faut que les gens qui doivent la mettre en place soient convaincus précisément qu'elle est bonne et opportune. Comment vous voyez les choses sans être devin?
Je pense que, enfin, dans les entretiens que j'ai réalisés, l'immense majorité des personnes que j'ai rencontrées, donc de tous les secteurs, les parents d'élèves, les élèves, les syndicats, etc., etc., étaient d'accord pour considérer que le baccalauréat devait évoluer. Après, ils sont pas tous d'accord entre eux, et puis après, non plus pas tous d'accord sur l'intensité des effets sur le lycée lui-même. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui en France, il y a un accord assez général pour dire il faut passer à autre chose, pas radicalement autre chose, mais passer à autre chose. Après, vous avez complètement raison. Une réforme ne se réussit pas parce qu'on l'impose. Elle se réussit parce qu'on convainc les parties prenantes de sa nécessité, de sa légitimité. Donc dans le rapport, j'essaye de faire attention à respecter les positions des uns et des autres, tout en faisant des propositions assez claires.
Je ne veux pas froisser votre modestie, mais est-ce que le travail que vous avez fait est historique ?
Voilà, oui, c'est vrai que c'est difficile ce matin avec toute ma famille qui m'écoute.
On peut pas encore. C'est le moment de dire oui. Alors,
oui, on peut pas encore le savoir. C'est-à-dire que.
Est-ce que c'est une vraie page qui se tourne dans l'histoire scolaire de la République?
Tous les matins, en rédigeant le rapport, je ne me posais pas la question de savoir si j'allais entrer dans l'histoire.
Maintenant qu'il est complet, avez mis le point final.
Écoutez, je pense que si le rapport est retenu à peu près globalement par le ministre, qui n'est absolument pas sûr, c'est mon rapport. D'ailleurs, je l'ai écrit au début. Le ministre, ça n'engage pas du tout. Si le rapport est retenu plus ou moins en totalité et que il est mis en œuvre, parce que quelque part, effectivement, je pense qu'on modifiera de façon assez radicale le bac, de façon aussi intense qu'en 1962. La dernière fois, c'était 1962, la réforme un petit peu structurelle du bac.
Une dernière question, vous m'avez l'air franc et, comment dire, dans une forme de parole non politique et sans langue de bois. Est-ce qu'on va à l'université vers la sélection en France?
Il ne faut pas qu'on y aille.
Est-ce qu'on y va?
Alors écoutez, actuellement il y a quelques petits indicateurs, notamment sur des attendus dans certaines universités ou facultés qui laissent à penser que certains sont en train de vouloir mettre en place une forme de sélection. À titre personnel, et même je l'écris dans le rapport, il est clair que, la réforme dont je m'occupe ne doit surtout pas être une réforme qui entérine ou prépare la sélection. C'est une réforme qui a pour vocation d'améliorer les conditions d'entrée dans l'université, de réussite à l'université, de tous, sans sélection à l'entrée à l'université.
Pourquoi avez-vous été obligé de refaire ce point dans le rapport? Je vous repose la question, est-ce qu'on va vers la sélection à l'université en France? Attendu, prérequis, tout ça sont des mots. La réalité, c'est quoi d'après vous?
La réalité, c'est que je pense...
Oui, vous pouvez dire oui si c'est oui, non si c'est non.
Non, vous savez, mais il faut développer à la radio, il faut aller vite.
Oui, développez, prenez le temps.
Je pense qu'il est très bien de prévoir des attendus. Il est très bien que on demande aux élèves, on vérifie un certain nombre de choses, mais pas pour sélectionner, pas pour empêcher des élèves d'aller dans telle ou telle filière, plutôt pour leur dire ce qu'on appelle le fameux « oui si » dans les attendus, on vous admet dans telle filière, mais on va vous demander, voire on va exiger de vous de suivre des TD ou des cours supplémentaires parce que vous venez d'une filière, vous avez suivi telle ou telle formation qui nous laisse à penser que vous allez avoir du mal si on vous met avec les autres. Voilà. Donc je pense que ça a du sens, parce que si on ne le fait pas, on a des élèves qui arrivent aujourd'hui en fac et qui se font massacrer par le système. Ça a du sens. En revanche, de dire, parce que vous avez fait tel ou tel bac, ou telle discipline, telle ou telle matière, parce que vous avez eu telle ou telle note, parce que vous n'avez pas votre permis de conduire, parce que vous n'avez pas le BAFA, on ne vous prend pas dans telle ou telle filière, ça, pour moi, c'est inacceptable.
Allez, on poursuit le débat avec vous, Pierre Mathieu, après la revue de presse, avec Alexandra Ben Saïd et bien entendu les auditeurs de France Inter. Claude Ascolovitch.